6h presque 3 minutes, jeudi 21 janvier. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 FM avec un matin pas chaud, autour de moins 12, moins 13 degrés. Ciel couvert, la neige va commencer ce matin. Une première accumulation de 2 à 4 cm avec un maximum, par contre, aujourd'hui de moins 4. Ça va se réchauffer. Alors, premier 4 cm de neige, un autre 5 cm au cours de la soirée avec des vents légers, températures qui ne bougent pas. Autour de moins 5 degrés. Demain, vendredi, c'est du temps nuageux. Peut-être quelques flocons demain matin, mais rien de majeur. Maximum moins 3 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, moins 10 couverts. Ça demeure stable à moins 10 pour la journée. Il n'y a pas beaucoup de soleil samedi, mais il n'y a pas de neige non plus. Et puis finalement, après une nuit plutôt froide, on va se réveiller dimanche matin avec une belle journée en vue, c'est-à-dire du soleil et moins 9 degrés. Je rappelle pour nos auditeurs qu'il y a cette fuite d'eau, c'est Vigée et Sanguinet avec un impact, là, c'est carrément au CHUM, enfin, proximité du CHUM, l'entrée, les urgences et tout ça, et le métro qui est touché. Et Marc suit ça pour nous, on aura une mise à jour dans quelques instants. Bon, c'était très particulier hier, la cérémonie d'assermentation, l'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris. Toute la journée, ça a été étrange. D'abord, contrairement à la tradition, le président Trump est parti seul, bon, avec sa femme, les membres de sa famille, quelques amis, quelques proches. Il a quitté, il n'a pas assisté, comme je le disais, la tradition l'enseigne, à l'assermentation de son successeur. C'est un mauvais perdant. D'ailleurs, hier, il y a des médias qui ont rendu public le texte que M. Trump a lu quand il a quitté la base militaire d'Andrews. Et dans ce texte, il nommait Joe Biden, il nommait Kamala Harris pour leur souhaiter bonne chance, sauf qu'il ne l'a pas fait de vive voix. C'est comme s'il avait, à la dernière minute, décidé de ne pas le mentionner. Pourquoi je dis que c'était bizarre? Parce que le discours de Biden, c'est toujours un discours, là, mais c'est un changement de ton. Où il parle de bonté, où il parle de gentillesse, où il parle d'espoir, de guérir les blessures d'une Amérique divisée. Nous ne sommes pas de gauche et de droite. Nous ne sommes pas des gens qui doivent toujours être en confrontation. Nous sommes des Américains, puis on traverse une crise sanitaire avec la COVID, qui, bien sûr, se traduit par une crise économique. Alors, c'est un Biden, président de transition, président d'un seul mandat, qui dit « Je viens replacer les choses, je viens redonner du lustre à la présidence après 4 ans de mensonges, de propos belliqueux, de propos, et on l'a vu jusqu'à la toute fin avec l'attaque du Capitole, des propos incendiaires. C'est, on tourne la page, et pour bien se comprendre, je signe 17 décrets, mémoire, ordre présidentiel, pour renverser les décisions de Trump. Et une de ses décisions, c'est bien sûr le pipeline Keystone XL. C'est terminé. Même la compagnie n'a pas attendu que ça soit fait, là, et on a cessé les travaux. Alors, c'était d'ailleurs un engagement très clair. Est-ce que ça va fonctionner? C'est tout un défi, là. Et j'écoutais les gens de CNN hier. Je suis allé me promener sur Fox News. Et à CNN, c'était l'euphorie, tu comprends? C'est 4 ans où tu te fais insulter par le président des États-Unis, que les journalistes en point de presse se font ramasser. C'est juste qu'ils n'ont pas eu, je dirais, la présence d'esprit de sortir les bouteilles de champagne puis de les installer. Tu sais, c'était là une inflation verbale, si on veut. Mais en même temps, il reste beaucoup d'Américains. Puis là, je ne vous parle pas des malades mentaux là, qui sont dans les cultes sataniques et les pédophiles puis les 5G, là. Je vous parle de gens qui ont vu hier le retour des démocrates, le retour d'Hollywood hier soir, le star system qui revient à la Maison-Blanche. Tu sais, c'est le retour aux bonnes vieilles pratiques de l'époque Clinton-Obama. Et pour beaucoup d'Américains, c'est loin des priorités. Alors, comment Joe Biden va réussir cet équilibre entre ramener le courage, être capable de faire avancer des plans de restructuration, des plans d'aide pour les gens qui sont démunis. Quand il a dit hier, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont isolés. Tout ça est vrai. Alors, c'est un méchant défi dans une Amérique qui demeure divisée. Et entre-temps, vous savez, je ne suis pas très porté à parler beaucoup de ces QAnon et ces mouvements complotistes, mais il y a un très bon texte dans la presse ce matin de Tristan Péloquin qui fait un peu le résumé des réactions, parce que depuis plusieurs semaines, les gens de ces réseaux de complot laissent sous-entendre qu'il y a des arrestations massives qui s'en viennent, là, que Trump a un plan, que tout ça est organisé, qu'on a fait croire que Biden deviendrait président, qu'il y aurait donc probablement intervention militaire, le plan secret de Donald Trump. Alors là, ils sont un peu mêlés. C'est comme quelqu'un qui dit « La Vierge va apparaître vers 5 heures, puis il est 5 heures, puis il ne se passe rien. » Puis là, t'as beau dire « La Vierge s'est trompée d'heure, ou on a mal compris le message. » Comment t'expliques ça? Alors, semble-t-il que le plus populaire, Alexis Cossette-Trudel, dit essentiellement dans ses messages, parce qu'il finit toujours par trouver une plateforme, on se donne encore un peu de temps. Il y a trop d'incohérences entre les événements de la période post-électorale et ce qui se vient de se passer. Je demeure circonspect encore quelque temps et le pape, M. Cossette-Trudel, fera une déclaration publique aujourd'hui, a-t-il promis sur le réseau social russe VK. Et j'ai vu plein de vidéos de gens qui disent « Oui, c'est une question de temps. » Il est parti pour peaufiner son plan. T'sais, c'est décevant. Tu penses, là, t'adhères à ça, la bouche ouverte, puis ça n'arrive pas. Alors, et le dernier volet concerne, par contre, des groupes plus préoccupants, des terroristes suprémacistes blancs. C'est rien passé hier. Mais en même temps, vont-ils rester muets? Est-ce qu'ils vont s'éclipser? Ce discours-là ne va pas disparaître. Ce discours de la haine ne va pas disparaître. Voilà pour le dossier américain. Maintenant, la COVID. Alors, où en sommes-nous ce matin? Bien, il y a des bonnes et des nouvelles un peu plus inquiétantes. D'abord, les bonnes nouvelles, c'est qu'on s'aperçoit que le taux d'hospitalisation a quand même baissé un peu. Il y a moins de gens, il y a moins d'entrées à l'hôpital. Les quartiers chauds de Montréal demeurent, là. Et on le sait maintenant, Saint-Léonard, Saint-Michel, Onsic, Montréal-Nord, tout le secteur de Rivière-des-Prairies en joue, entre autres. Alors, c'est du 450 cas actifs pour 100 000 habitants. Et donc, ça montre que, dans certains secteurs, c'est contagieux. Je regardais ce matin, là, si vous jetez un coup d'œil vers Québec, au Centre hospitalier universitaire de Québec, là, il y a une explosion de cas de COVID au sein du personnel. Et depuis le 1er décembre, 66 % du personnel infecté a contracté la COVID sur son lieu de travail, donc à l'hôpital, par des collègues. Bon, les experts prétendent qu'il faut faire attention quand on identifie la source. Mais c'est sûr que le milieu de travail, à l'hôpital, pour toutes sortes de raisons, parce que les gens, là, ils vivent leur vie, là, ils travaillent, ils ont des conjoints, ils ont des enfants qui vont à l'école, qui peuvent revenir contaminés. Et on l'a vu plus tôt cette semaine, pourcentage faible mais réel de gens qui attrapent la COVID à l'hôpital. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même un certain nombre. Et les experts disent que c'est pas plus dangereux de l'attraper à l'hôpital que de l'avoir dans un milieu de travail. La conclusion, c'est que la COVID est toujours très présente. Et le problème avec un virus comme ça, qui est invisible, c'est qu'on a peut-être tendance à baisser la garde. On a augmenté le nombre de contraventions pour les rassemblements. Il y en a eu plus de tickets que pendant la période des fêtes. Fait que les gens, là, ils se réunissent en masse, malgré le couvre-feu, malgré les directives. C'est un faible pourcentage, mais c'est le genre d'individu qui peut attraper la COVID, donner la COVID, et pousser des gens vers l'hôpital. Alors, ça, c'est le premier constat qu'on peut faire ce matin. Le deuxième, ça concerne la vaccination. Je vais en parler avec le Dr Weiss. Deux, trois nouvelles concernant la vaccination. D'abord, vous savez qu'Israël vaccine beaucoup. Il y a un pourcentage très élevé. Ils ont payé plus cher, entre autres, là, pour obtenir le vaccin. Et pourtant, les cas continuent d'augmenter. Et là, vous avez des experts qui se disent, est-ce que la première dose du vaccin de Pfizer est aussi efficace qu'on le pensait. Et ça ébranle beaucoup la communauté montréalaise. Il semble, en tout cas à première vue, que c'est peut-être moins efficace. Et là, vous voyez le deuxième débat s'en venir sur le délai entre la première et la deuxième dose. On va écouter le Dr Weiss tantôt. Mais donc, il y a eu un nombre record de cas COVID en Israël lundi. Et malgré le vaccin et malgré des mesures de confinement extrêmement sévères, ce qui, vous le comprendrez, fait énormément réfléchir. Et puis, il y a aussi l'approbation du vaccin. Beaucoup de gens m'écrivent là, pour AstraZeneca, parce qu'on sait que Pfizer, il n'y a pas de livraison la semaine prochaine. Dans le cas de Moderna, on va respecter ce qu'on a promis, mais on ne peut pas augmenter la cadence. C'est ce que nous a dit la DG ici au Canada. Alors, il y a donc, du côté d'AstraZeneca, le feu vert qui manque pour procéder. Je sais que c'était approuvé dans d'autres pays, je pense le Royaume-Uni, entre autres. Santé Canada n'est pas capable de dire à quel moment ce vaccin sera évalué et approuvé au besoin. Puis il y a d'autres vaccins aussi qui sont à l'étude, notamment de Johnson & Johnson. Alors, la vaccination va être au ralenti. On pense être capable de rattraper sur 3 mois, là, mais ça ira pas aussi vite qu'on veut. Et donc, on va regarder ça avec le Dr Weiss tantôt. Je vous parlais tantôt de ce discours de Joe Biden sur la bonté, sur l'ouverture vers les autres, sur la main tendue. C'est un discours en termes de pensée et d'objectif qui fait du bien, là. Et pas qu'aux Américains, c'est-à-dire d'entendre un chef de gouvernement, un chef d'État nous dire est-ce qu'on peut être moins agressif? Est-ce qu'on peut avoir des points de vue différents sans tomber dans l'escalade, sans tomber dans le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme? Et hier, tout ça est calculé, là, c'est-à-dire de voir Biden arriver, Kamala Harris, de voir la juge, la première juge de la Cour suprême d'origine latino qui assermente Mme Harris, de voir des intervenants au podium, cette jeune femme qui est venue lire un poème, c'était de toute beauté. Et puis là, en parallèle, je regarde un peu ce qui se passe ici, où on est tous tannés. On est tous un peu, disons, à fleur de peau, parce que c'est difficile sur le plan du travail. Ou bien on l'a perdu, ou on est en télétravail, ou on est, tu sais, confiné. Puis je voudrais vous donner des exemples ce matin, puis profiter de ce moment, peut-être aussi pour dire aux gens de respirer un peu. Je reprends l'exemple de Stéphanie, qui travaille dans une grande surface. À 26 ans, elle a fait son diplôme, elle n'a pas trouvé de job, puis elle veut travailler. Pratiquement le salaire minimum. Et là, elle se fait engueuler. Puis ses collègues se font engueuler parce qu'il y a des sections qui sont fermées dans sa grande surface, donc des produits que tu ne peux pas acheter. Puis là, je suis d'accord que c'est peut-être pas toujours assez clair, puis que pourquoi je peux acheter ci, puis pourquoi je ne peux pas acheter ça, puis ça vient ajouter à la frustration. C'est pas Stéphanie qui décide. Elle n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi vous l'engueulez? Pourquoi vous la traitez d'épaisse? Pourquoi vous dites qu'elle est imbécile? Pourquoi vous criez après? Pas nécessaire. En passant, c'est la journée des câlins aujourd'hui, internationale. Il paraît qu'on a besoin de 7 minutes de câlins par jour. On est d'accord, c'est la COVID. C'est un peu plus compliqué. Mais s'il n'y a pas de câlins, on est obligé de crier. Puis, moi-même, je m'impatiente des fois. Puis là, après ça, tu essaies de te raisonner un peu. Elle dit, je lance un cri à la population. Inutile de nous crier par la tête et de nous traiter de tous les noms. Ça nous décourage dans notre travail. Il y a un monsieur qui m'écrit... travaillent dans les dépanneurs. Ils ont des restrictions. Ils se font engueuler. Peux-tu baisser le ton? Comme dit M. Biden, baisser la température un peu, là. Ça ira pas mieux, ça ira pas plus vite. Puis oui, c'est comme ça. Puis je le sais, il y a plein d'incongruités. Vous le disiez tantôt, il y a un gars qui s'en va s'acheter du chocolat, Dollarama, peut pas acheter une paire de lacets. Une auditrice me dit... j'ai besoin de bottes. Oui, il faut que tu commandes. Oui, il y a des délais si tu commandes en ligne. Il y a un paquet de choses, malheureusement, comme ça, qui peuvent faire en sorte. Une madame qui m'écrit, elle va jogger, c'est une infirmière. 4h23 le matin, on est en couvre-feu. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle retourne chez eux, elle prend sa douche, prend un café, puis elle s'en va travailler. Fait que là, son horaire est un peu serré. Puis elle a été interceptée par la police. Puis ils ont dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Puis là, peut-être qu'on aurait pu, etc. Puis peut-être qu'elle a pu refaire son... Je porte pas de jugement, là. Je vous rapporte, là, tout ce qui devient un irritant. Un autre exemple ce matin. Le télétravail. J'ai fait répéter deux fois plutôt qu'une à M. Boulay. Si mon employeur ne veut pas que je fasse du télétravail, à qui je me plains? Réponse deux fois, là. CNESST. Radio-Canada nous dit ce matin que selon les informations que recueille Radio-Canada, des employés se voient encore refuser de l'aide de la part de la CNESST. Ça, c'est à la maison des fous, là, le ministère du Travail puis la CNESST. Là. Le ministre me dit ça de bonne foi, puis je suis convaincu que c'est ça qu'il veut, là, puis c'est ça qu'il pense. Là, les gens appellent, puis là, ils me rappellent, puis ils me réécrivent. Mais Jacques, hein, on a appelé là, puis ça ne marche pas. On rappelle au bureau du ministre puis de la CNESST, on dit non, non, non. On ne comprend pas qu'on vous ait répondu ça. Puis là, Radio-Canada a fait le même genre d'exercice que nous, puis arrive à la même conclusion. On fait rapidement le tour aussi sur la question des voyages. Là, les gens me disent, oui, mais M. Arcan, c'est quoi le trouble, là? Le ministre Duclos vous a dit que c'était 0,1% des cas de COVID qui revenaient de l'étranger. Je sais que le ministre n'était pas content hier, là, il nous a fait savoir ça. Et là, ils ont comme l'impression qu'on va annuler des vols. Je sais que TVA racontait ça hier. C'est pas mal dans l'air, là, tu sais. Puis comment t'annules, là? Puis c'est quoi que t'annules? Pas facile, là. Les vols nolisés t'empêchent les agents de voyage de faire des ventes, t'empêchent les compagnies d'offrir des forfaits. Qu'est-ce qui arrive avec ceux et celles qui ont déjà payé? Bon, en résumé, pour encore une fois contredire M. Duclos, pour qui j'ai beaucoup de respect, là, si c'est pas grave, les voyages, pourquoi les deux premiers ministres, celui du Québec, celui du fédéral, disent aux gens de ne pas voyager? Insiste, là, M. Trudeau, il dit même, vous pognez dans le détour avec des mesures surprises. Alors, si c'est pas important, si les mesures canadiennes sont efficaces, si la COVID, c'est pas un enjeu, les voyages, pourquoi on décide de dire aux gens de pas voyager? Pour tuer l'économie? Pour nous écœurer? Pour nous empêcher d'avoir du plaisir? Non. Parce qu'il y a un réel potentiel de propagation. Pour deux raisons. Parce que la COVID a des variants qui sont extrêmement contagieux et il y en a de plus en plus. Deuxièmement, les mesures actuelles ne marchent pas. Et encore hier, on a pu le mesurer, là, des gens qui sont en quarantaine, puis je comprends que la plupart des gens respectent à 90 %, puis il y en a qui s'en foutent, puis qui sont bien fiers de le dire. Fait que c'est pas vrai là, qu'un coup de téléphone sur le cellulaire, puis quelques mesures comme ça, puis là, c'est toujours le suspect de dire, OK, on fait quoi? On vous envoie à l'hôtel, là, ça va te coûter 2-3 000 de plus. Puis tu vas être en quarantaine, surveillé. Est-ce que c'est ça ou on annule des vols? Fait que là, les gens qui me disent que les voyages, ça n'a pas d'effet, que partout dans le monde, c'est extraordinaire les mesures, je veux bien vous croire, là. Je vous dis pas que tout le monde va attraper la COVID. C'est pas la même affaire qu'au printemps, mais le virus n'est pas tout à fait le même qu'au printemps. Alors, les gens de santé publique sont convaincus qu'il y a un problème potentiel à venir. Et là, la semaine de relâche s'en vient. Puis on comprend qu'il faut qu'elle soit là pour permettre d'abord aux enfants, puis aux ados peut-être, de faire cette pause, puis à des profs aussi, malgré tout le débat et la chicane que ça génère. Mais là, on va-tu assister à des départs massifs des gens qui ont acheté, puis qui se disent, nous autres, là, puis quand tu reviens de ta semaine de relâche, vas-tu être 14 jours en quarantaine? Est-ce que les enfants vont manquer 3 semaines d'école? Puis là, ça va être quoi, le téléenseignement? C'est un pas pire de casse-tête, tout ça. 6h23. Parlons au pluriel les fuites d'eau.